Aujourd'hui, donc, nous recevons Annick Loiseau. Annick Loiseau est née en 1957. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure de chimie de Paris et elle est docteur S sciences physiques. Actuellement, elle est directrice de recherche à l'ONERA. Elle est enseignante à l'Université d'Orsay et co-directeur du groupe de recherche nanotubes du CNRS, conjointement avec M. Bernier, qui est du CNRS de Montpellier. Elle mène des recherches de physique structurale sur les alliages métalliques et les nanomatériaux, et elle utilise pour cela énormément la microscopie électronique. Je pense que nous le verrons tout au long de la conférence. Elle est membre de la Société française de physique, de la Société française des microscopies et de la Société française de métallurgie. Parmi les prix qu'elle a reçus, celui qui est le plus en rapport avec les recherches sur les nanotubes qu'elle va nous présenter ce soir, il y a le prix qu'elle a reçu en 1999. Elle a reçu le prix Louis Ancel de la Société française de physique. Elle a publié plus de 130 articles dans des journaux scientifiques spécialisés et internationaux tels que Physical Review Letters, Nature, Science, Chemical Physics Letters, European Journal of Physics, mais aussi dans des journaux moins spécialisés comme La Recherche. Et elle prépare actuellement un ouvrage sur les nanotubes pour les éditions Gordon & Bridge, dont la livraison du manuscrit est prévue d'ici fin décembre 2000. Voilà, Annick Loiseau, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre avec le public d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Écoutez, je voudrais tout d'abord vous dire que je me sens vraiment très honorée de participer à cette université de tous les savoirs et de vous présenter ce domaine de recherche qui concerne les nanotubes, qui est un domaine de recherche qui n'a même pas 10 ans d'âge, qui a connu donc vraiment un développement fulgurant, qui d'ailleurs ne se dément pas au fil des mois. C'en est même au point qu'il est difficile de faire une photographie du domaine de recherche, tant son évolution est rapide. Et c'est un domaine qui touche absolument toutes les branches, différentes branches de la physique, de la chimie, et c'est ce qui en fait une de ses attractions. Alors, au cours de cette conférence, je vais tâcher vous montrer ce que c'est un nanotube et pourquoi les chercheurs s'y intéressent tant que ça. Alors, tout démarre avec la découverte présenté par Sumio Ijima, un chercheur qui travaille à NEC au Japon, qui a publié dans la revue Nature en 1991 ses photographies, qui sont des photographies de microscopie électronique. Alors je suis obligée de zoomer pour vous montrer ce qu'il faut voir. Et ces photographies montrent quoi ? Eh bien, montrent une structure, en fait, il a démontré que c'est une structure tubulaire. Le dessin de la structure, vous le voyez ici. Donc, ça consiste en tubes concentriques qui sont empilés les uns dans les autres, exactement comme des poupées russes. Et ce que vous voyez sur ces images, eh bien, c'est une projection de ces tubes. Chaque tube est visualisé par deux lignes, comme je vous expliquerai plus tard, symétriques par rapport au centre ici. Donc, le nombre de lignes vous renseigne directement sur la quantité de tubes que vous avez dans votre empilement. Donc, il y en a successivement 5, 2 et 7. Alors, il a démontré de plus que ces tubes correspondaient à du carbone cristallin. Qu'est-ce qui est vraiment le plus spectaculaire dans cette information ? C'est pas tant qu'on voit des tubes, ça c'était pas la première fois, mais c'est leur dimension. Vous voyez ici, sur l'échelle, qui est indiquée ici, 3 nanomètres. Ces tubes, ils ont une longueur de l'ordre du micron, mais ils ont un diamètre qui est entre 1 et 10 nanomètres. Alors, pour se représenter ce que c'est cette dimension, un nanomètre, c'est 1 millième de micron. D'accord ? C'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Voilà, déjà, 100 000 fois, bon, c'est un rapport. Mais bon, ça ne parle pas encore très bien. Le rapport que vous avez entre le cheveu et le nanotube, c'est le même que celui que vous avez entre un cheveu et une canalisation d'oléoduc ou de 10 mètres de diamètre. Donc, vous voyez un peu le rapport. Vous avez un objet qui confine aux dimensions des molécules, et en particulier, c'est le même diamètre que le diamètre de la double hélice d'ADN. Donc, un objet vraiment aux dimensions moléculaires. Donc, pour résumer, cette observation montre qu'on a réussi à observer un cristal unidimensionnel de carbone, et ça, c'est un objet unique, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence. Alors, pour répondre, pour expliquer ce que c'est, on va aborder dans cette leçon les questions suivantes. Tout d'abord, on va s'intéresser à la structure du nanotube. Je vais essayer de vous décrire exactement ce que c'est. Ensuite, comment on l'observe et comment on l'a identifié. Comment on synthétise les nanotubes. Quelles sont leurs propriétés. J'imagine que vous attendez tout ça avec impatience. Et puis, eh bien, quel est l'avenir pour ces objets, aussi bien pour la science fondamentale que pour la recherche appliquée. Alors, en fait, faisons un petit peu d'histoire pour bien comprendre l'originalité du nanotube. Jusqu'en 1985, on connaissait deux formes cristallines de carbone. La première, c'est le graphite, qui est représenté ici. Le graphite, c'est un solide dur, c'est un solide noir, friable, qu'on utilise depuis des siècles, par exemple comme dans l'encre de Chine ou dans les mines de crayon. Vous voyez que c'est un empilement de plans. Chaque plan est constitué d'hexagones et les atomes de carbone sont au sommet de ces cycles d'hexagones. Ça, c'est le graphite. La deuxième forme connue de cristal de carbone, c'est le diamant, qui est, comme vous savez, un solide transparent, très dur, très dense, et qui a une structure beaucoup plus compacte que celle du graphite. Et puis, en 1985, trois chercheurs ont découvert une nouvelle forme de carbone qui correspond à une molécule qu'on a appelée fullerène, par référence à l'architecte Fuller qui avait construit à Vancouver pour une exposition universelle un dôme dont la structure est exactement celle que vous avez dans cette molécule. Alors cette molécule, c'est quoi ? Comprend 60 atomes de carbone qui sont répartis au sommet de facettes. Vous voyez, vous avez un polyèdre qui est constitué de facettes hexagonales et pentagonales. Et donc, les atomes de carbone sont au sommet de ces facettes. Alors, j'ai dit hexagone, et en fait, les hexagones sont exactement les mêmes que ceux que vous avez dans la structure graphite. Donc, on voit apparaître une petite filiation, une première filiation, entre la structure ici et ce que vous avez ici. La filiation devient complètement évidente quand on considère la structure du nanotube, qui donc a été découvert en 1991, donc 6 ans après la découverte du C60. Le nanotube, c'est quoi ? Eh bien, vous prenez une feuille de plante graphite, qu'on appelle graphène, et puis vous la roulez de façon à obtenir un cylindre, et vous fermez les extrémités, et voilà un nanotube. Alors, bon, il est clair que ce qui va nous intéresser, c'est le plan de graphite ici, et je vais commencer par vous décrire un peu plus précisément la structure du graphite. Alors, vous avez reproduit à nouveau ici cette structure. En fait, comme je l'ai dit, c'est donc un empilement de deux plans. Et dans chaque plan, chaque atome est relié à trois voisins par trois liaisons chimiques planaires qui font entre elles un angle de 120 degrés. La liaison est forte, ce qui traduit par une distance entre atomes de carbone voisins de 1,4 angström. Alors ça, c'est une liaison forte. Pour vous donner une idée pourquoi elle est forte, eh bien, pour la casser, il faut chauffer le graphite jusqu'à 3000 degrés. Par comparaison, l'aluminium, il faut le chauffer à moins 2000 degrés pour le fondre. Bien, maintenant, vous avez également des liaisons entre plans qui sont indiquées en pointillés, donc entre les atomes de carbone qui sont dans des plans adjacents. Mais ces liaisons sont beaucoup plus faibles et les distances entre plans sont plus grandes puisqu'elles sont maintenant de 3,4 angström. Le résultat, c'est que vous avez un système qui a une densité faible, 2/3 de celle du diamant, hein, ça je vous l'avais annoncé, le diamant c'est dense, et vous avez un solide qui est très anisotrope, quasi bidimensionnel, les plans peuvent coulisser très facilement les uns par rapport aux autres. Alors, donc un tube, eh bien, c'est un plan de cette structure roulé de façon à obtenir un cylindre. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment je ferme ce tube ? Vous voyez, pour fermer, je vais être obligée de distordre mon plan d'hexagone et je sens que ça ne va pas bien se passer. Il va falloir que je crée des défauts quelque part. Alors, la solution, eh bien, c'est effectivement d'introduire un défaut. Et le défaut en question, c'est un pentagone, comme vous le voyez ici. Alors, le pentagone, il introduit une courbure dans le plan d'hexagone, comme vous le voyez sur le dessin de coupe ici. Voilà le pentagone qui est ici, et vous voyez que le pentagone, il a transformé le plan en une structure conique avec un angle d'ouverture qui est de 112 degrés. Alors, si vous ajoutez d'autres pentagones, vous allez refermer petit à petit votre surface de façon comme une espèce de coquille, et puis à la fin, si vous en rajoutez suffisamment, eh bien, vous allez fermer et former un polyèdre. Et en fait, la condition de fermeture, c'est-à-dire pour transformer le plan en polyèdre, eh bien, il faut rajouter 12 pentagones. Ça, c'est la règle dite de Euler, qui était un physicien suisse du XVIIIe siècle. Et en fait, le plus petit polyèdre que vous pouvez construire de cette façon, eh bien, c'est la molécule de C60 qu'on retrouve ici. Elle est composée donc, de 12 pentagones et de 20 hexagones. Elle a une très haute symétrie, puisqu'elle a une symétrie icosaédrique, et elle est inscriptible dans une sphère. Alors, comment passe-t-on de cette molécule au nanotube ? Eh bien, en fait, vous repartez de la molécule de C60, et maintenant, vous introduisez une rangée d'hexagones. Alors, je vais zoomer pour qu'on voit un peu, peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, voilà la rangée d'hexagones en rose que j'ai introduite au milieu. La molécule s'est légèrement étirée et en gros, je suis passée du ballon de foot, hein, la molécule de C60, c'est exactement le ballon de foot, à, et ben, ma foi, un ballon de rugby, qu'on appelle la molécule C70, qu'on a également synthétisée après la molécule C60. Alors, il suffit, on va étirer de plus en plus la molécule au fur et à mesure qu'on rajoute des rangées d'hexagones, comme on l'a fait ici. Et si on en rajoute eh bien, un nombre infini, on va obtenir un nanotube, ce qui est dessiné ici. Et ce nanotube, eh bien, maintenant, il est fermé. Et la fermeture, c'est quoi ? Eh bien, c'est la moitié d'un espace. Hein. Quand je rajoute une rangée d'hexagones ici, je sépare la molécule en deux parties, en deux hémisphères. Chaque hémisphère fait intervenir 6 pentagones. Et donc, l'extrémité du tube, ici, eh bien, fait intervenir 6 pentagones. Voilà comment on comprend la fermeture des tubes. Donc, si je résume ce qu'on sait sur la structure, les ingrédients, c'est quoi d'un nanotube ? Je prends du graphite, je le courbe, je le ferme, et je l'étire énormément pour obtenir un caractère monodimensionnel. Voilà tous les ingrédients qui font de cet objet un objet extraordinaire. Alors, on n'a pas tout dit. On a dit... Je prends un plan de graphite et je le roule. Et en fait, il y a plusieurs possibilités de faire ça. Si je prends une feuille, voilà, un plan d'hexagone, eh bien, vous voyez que j'ai plusieurs façons de rouler ce plan pour faire un cylindre. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ceci, mais je peux faire aussi comme cela. Et on sent bien qu'à chaque fois, je veux obtenir une configuration différente. Qui est quoi ? Qui est que l'orientation du réseau d'hexagones vis-à-vis de l'axe du tube va être différente. Et en fait, on peut classer... Alors, je dézoome. On peut classer les différentes configurations que l'on peut obtenir en 3 catégories qui sont dessinées ici. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, en fait, ces 3 catégories diffèrent par l'orientation du réseau d'hexagones vis-à-vis de l'axe du tube. Donc, si vous regardez, par exemple, celle-ci, eh bien, vous voyez que vous avez des hexagones, vous voyez l'orientation des hexagones ici. Et si je regarde le bord ici, la lèvre, vous voyez que ça fait un dessin qui rappelle le dessin d'un fauteuil. Bon, en anglais, on appelle ça l'armchair, qui veut dire le fauteuil. En français, il n'y a pas de traduction très claire. Les gens disent chaise, ce qui n'est pas très approprié. La deuxième catégorie de tubes, elle est ici. Alors, si vous regardez maintenant les hexagones, vous voyez qu'ils ne sont pas la même orientation qu'ici. Ils sont tournés de 30 degrés par rapport à ce que l'on a ici. Et si je regarde le bord de la lèvre là, eh bien, j'ai un zigzag, d'où la dénomination zigzag donnée à ces tubes. Et puis, alors, dans ces deux cas... Vous voyez que les hexagones du dessus du tube et du dessous du tube ont la même orientation. Toutes les autres configurations, ce n'est pas le cas. les hexagones du dessus ne sont pas orientés de la même façon que les hexagones du dessous. On dit qu'on a un tube chiral. Et en fait, la chiralité, on la voit bien quand on regarde ce type de tube par-dessus. Vous voyez ici les rangées d'hexagones qui ne sont pas orientées de la même façon que de ce côté-ci. Alors, il y a plusieurs façons de décrire la configuration de ces tubes. Et une des façons que je vais retenir dans la suite de cet exposé, c'est de repérer l'axe du tube par rapport à une rangée donnée du réseau d'hexagones, par exemple celle-ci. Et l'axe du tube est représenté par cette flèche. Il fait un angle que je vais appeler angle d'hélicité pour décrire la relation d'orientation qu'il y a entre tube et plan d'hexagone. Voilà. Alors, maintenant, suivant les conditions de synthèse, eh bien, on a déterminé qu'il y avait plusieurs façons de les tubes s'auto-assemblent de différentes façons. La première façon, eh bien, c'est celle qui a été trouvée par Ijima dans la publication que je vous ai montrée au début. Ils s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. La deuxième façon, qui a été découverte 3-4 années plus tard, eh bien, les tubes restent monofeuillets et s'assemblent pour former une espèce de câble, un fagot ou un faisceau, bon, vous prenez le terme qui vous arrange, et ils s'empilent dans ce câble de façon à former un arrangement compact, périodique, de symétrie triangulaire. Et le diamètre de ces tubes est évidemment très uniforme, sinon ils ne pourraient pas former cet arrangement périodique, et il est en général autour de 1,3 nanomètre, donc quelque chose de très petit. Alors comment a-t-on déterminer que l'on avait affaire à une catégorie plutôt qu'une autre, eh bien, c'est la microscopie électronique qui nous a permis de répondre. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant dans la deuxième partie consacrée à l'observation de ces structures. Alors, pour observer les arrangements atomiques, eh bien, c'est évident, ce n'est pas à l'œil nu qu'on le fait, et ce n'est même pas avec un microscope optique, ce que je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Bon, on envoie un rayonnement sur la matière, et à l'aide d'un microscope qui a un jeu de lentilles qui permet de focaliser les faisceaux, on construit une image très agrandie de l'objet. Alors, les informations que l'on peut obtenir, le détail des informations que l'on peut obtenir, dépendent en premier chef du rayonnement que l'on utilise. Comme vous le savez, le rayonnement, c'est une onde caractérisée par une longueur d'onde, et le pouvoir de résolution de ce rayonnement, c'est en gros la longueur d'onde. Pouvoir de résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire la taille minimum des détails que vous pouvez observer sur l'image. Si je prends la lumière visible, c'est-à-dire une longueur d'onde bon, centrée sur 400 nanomètres à peu près, eh bien, ce pouvoir de résolution est de 1 micron. Ça veut dire qu'avec un microscope optique qui utilise la lumière visible, on ne peut pas voir de détails plus petits que 1 micron en gros. Or, ce que l'on cherche à voir, c'est des arrangements atomiques. Et les distances entre atomes, typiquement, elles sont comprises entre 1 et 10 angstroms. Eh bien, il faut que j'utilise un rayonnement qui a une longueur d'onde qui est inférieure, qui est de cet ordre de grandeur-là, donc inférieure à 0,1 nanomètre. Et qui, de plus, je peux focaliser, c'est-à-dire je peux faire une optique avec. Par exemple, les rayons X ont des longueurs d'onde de l'ordre de 1 angstrom, donc il conviendrait, mais c'est très difficile de faire de l'optique avec des rayons X. Et en fait, la bonne solution, c'est d'utiliser des électrons de forte énergie. Forte énergie veut dire quoi? Veut dire accélérer sous un potentiel de l'ordre de 100 kV, de 100 à 1 million de volts. Et les longueurs d'onde que l'on obtient sont extrêmement faibles, comme vous le voyez. Donc, bingo, on va pouvoir faire quelque chose. Et qui plus est, les électrons, comme vous le savez, peuvent être déviés sous un champ électrique et un champ magnétique. Donc, en remplaçant, en utilisant comme lentille des bobines électromagnétiques et électrostatiques, on va pouvoir faire de l'optique avec les électrons. Et c'est ce qu'on fait depuis 1937, date de la découverte de la microscopie électronique par Ruska. Et voilà à quoi ressemble schématiquement un microscope électronique. C'est exactement comme un microscope optique que vous connaissez. C'est-à-dire que vous avez une source d'électrons qui est donc la source du rayonnement, un système d'illumination qui conditionne le rayonnement, le faisceau qui va arriver sur l'échantillon. Cet échantillon doit être très très mince, l'épaisseur doit être comprise entre 2 et 100 nanomètres typiquement, sinon il n'est pas transparent aux électrons, l'échantillon absorbe les électrons. Et ensuite vient le système objectif projecteur qui fabrique l'image et qui l'agrandit jusqu'à 1 million de fois. Et enfin, on a l'étage d'observation et d'acquisition des images ou des informations que l'on recueille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution du microscope est vraiment beaucoup limitée par l'optique du microscope, qui a plein de défauts, plein d'aberrations. Et typiquement, les résolutions que l'on obtient sont de l'ordre de 2 angströms. Donc, on aura du mal à voir des détails plus faibles que 2 angströms. Alors, quelle est la nature des informations ? Eh bien, on va observer les morphologies depuis le micron jusqu'au nanomètre. On va observer l'arrangement des atomes. Et en utilisant un mode qui est trop compliqué à expliquer, qu'on appelle un mode de spectroscopie, on peut identifier la nature chimique des éléments qui sont présents dans l'échantillon, déterminer leur concentration et en faire une cartographie, c'est-à-dire déterminer où ils sont distribués dans l'échantillon. Quel que soit le mode que l'on utilise, ce qui est très important, c'est que l'information qu'on reçoit de la structure est le résultat d'une projection le long de la direction de propagation du faisceau. Ce que j'ai schématisé ici, vous avez le faisceau d'électrons vertical, mettons, l'échantillon qui est un système, un volume, et l'image que vous obtenez de cet échantillon, c'est la projection de cet échantillon le long de la direction des électrons. Et donc, on a une information bidimensionnelle. Et ça, c'est très important parce qu'on va essayer de récupérer une information tridimensionnelle à partir de cette information bidimensionnelle. Et ça, c'est compliqué. Alors, voyons comment ça marche pour les nanotubes. Voilà une image. Donc, je vous rappelle le nanotube multifeuillet. Eh bien, vous le projetez, ce tube, le long de la direction verticale. Et qu'est-ce que vous allez obtenir ? Eh bien, vous allez obtenir un réseau de lignes. Chaque ligne est la projection de la partie tangentielle du tube. Donc, chaque tube va donner un jeu de 2 lignes symétriques par rapport à l'axe ici. C'est exactement l'image que vous voyez ici. Maintenant, je fais une analyse chimique. L'analyse chimique, ça consiste à déterminer la densité atomique. Si j'analyse cette densité atomique et que je la projette le long de direction de propagation des électrons, eh bien, elle va avoir cette forme-là pour un tube. En effet, suivons la flèche ici, qui est l'axe X ici de ce profil. Donc, au début, on est dans le vide, zéro signal. Ensuite, on arrive dans le nanotube, beaucoup de densité atomique, donc on monte. Ensuite, on arrive sur la partie horizontale, là, la densité est plus faible, donc on redescend un peu, et puis après on remonte pour redescendre enfin. Eh bien, ce profil, il est typique d'une structure tubulaire. Donc, c'est vraiment la confirmation que l'on a affaire à un tube. Et voilà, par exemple, un exemple de profil chimique obtenu sur un tube multifeuillet. Maintenant, les tubes organisés en faisceaux. Vous vous rappelez, les câbles de faisceaux de monotubes. Eh bien, voilà une image à bas grandissement de ces faisceaux. Bon, c'est une pelote de fil, hein, à faible grandissement, enchevêtrés les uns dans les autres. Et puis, vous voyez, c'est vraiment un plat de spaghetti avec des tubes qui sont recourbés. Et eh bien, si vous agrandissez très fortement ce qui se passe par ici, vous obtenez l'image qui est ici. Là, le faisceau, il se trouve parallèle, les monotubes sont parallèles au faisceau d'électrons, et donc on les voit par le bout, on voit leur section. Et vous voyez, je ne vous ai pas menti, chaque cercle, en fait, c'est un monotube, donc vous avez bien des tubes monofeuillets qui ont un diamètre tous uniforme et qui sont empilés de façon compacte et périodique. Alors, il y a d'autres façons de visualiser ces faisceaux. Voilà une vue, je suis obligée de zoomer, d'ensemble de ces faisceaux. Alors, vous me direz, on ne voit pas que des faisceaux là-dessus, on voit des tas de taches noires. Alors les taches noires, je vous dirai plus tard pourquoi on a ça. Ce sont les particules de catalyseur. On est obligé d'utiliser un catalyseur pour synthétiser les nanotubes. Et donc les nanotubes se retrouvent mélangés avec toutes ces particules de catalyseur. Donc c'est toutes les parties noires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les fils que vous voyez ici. Et si on zoome énormément, ce que je fais avec vous, eh bien, miracle, on voit apparaître la structure tubulaire. Donc, tous les traits que vous voyez ici, eh bien, c'est l'image projetée des tubes qui sont contenus dans les faisceaux. Alors, on a aussi, avec ce type de technique, déterminé un petit peu l'organisation à grande échelle des faisceaux. Alors, vous voyez de nouveau une image à faible grandissement, donc qui vous montre, bon, vraiment, c'est un plat de spaghetti, quoi. Hein. Et si on regarde ça à plus fort grandissement, eh bien, on voit qu'en fait, on a une architecture qui est très intéressante. On voit que les faisceaux s'attirent pour former des gros câbles. Vous voyez, tous ces faisceaux ici qui s'attirent pour former ces gros câbles. Et vous avez ici une image de ce câble vu, une image de la section, on va dire. Donc, il est constitué de trois faisceaux, donc le 1, 2, 3, qui est à l'intérieur de chacun de ces sous-faisceaux, on va dire, l'arrangement périodique des tubes est orienté différemment par rapport aux autres faisceaux. Donc, on a un faisceau polycristallin. Bien, alors, donc, on a déterminé avec la microscopie électronique qu'on a affaire à des tubes, que ces tubes ils sont soit concentriques, soit empilés de façon périodique, mais on n'a rien vu des hexagones. Hein. On n'a pas vu que les tubes sont constitués d'un plan d'hexagone et on n'a pas vu comment ce plan d'hexagone est enroulé sur la surface du tube. Alors, en fait, pour visualiser ça, il faut être capable d'imager directement... Il faut être capable d'imager directement les positions des atomes de carbone pour chaque tube. Et la résolution nécessaire pour ça, elle est d'au moins 1,4 angström, ce qui est très petit. Hein. Je vous ai dit, la résolution du microscope facilement accessible, c'est 2 angström. Alors, ça ne va pas être facile. Et puis, deuxièmement, il y a un sacré problème de projection. Parce que, admettons que vous obtenez l'image des atomes d'hexagone pour chaque tube, quand vous avez 100 tubes dans un faisceau comme ici, vous avez un effet de projection terrible, vous ne verrez rien. Alors, une des solutions, eh bien, c'est de changer de technique et de passer à la microscopie de surface, c'est-à-dire maintenant d'observer les atomes en surface du tube et non plus en projection par transmission. Donc, on utilise quoi ? On utilise ce qu'on appelle la microscopie de surface à effet tunnel, qui a été découverte en 1987. Il y a eu un prix Nobel en 1988. Et le principe, il est le suivant. Vous avez une surface, et puis vous approchez de cette surface une pointe très fine, métallique, en général du tungstène ou du platine, et vous l'approchez très près, c'est-à-dire à quelques dixièmes de nanomètre de la surface, et vous balayez la surface avec cette pointe, et vous appliquez un potentiel de quelques volts entre la pointe et la surface. Et bien, quand la pointe passe à l'aplomb d'un atome de la surface, il s'établit les électrons peuvent circuler de cet atome de la surface vers la pointe sans barrière de potentiel. C'est un effet quantique qu'on appelle effet tunnel. Et en fait, quand on balaye la pointe sur la surface, à chaque fois qu'on passe sur un atome, hop, il y a un petit pic d'intensité qui correspond au courant qui passe. Et donc, on obtient une cartographie de courant qui est une cartographie des images des atomes sur la surface. Donc, voilà à quoi ressemble l'image d'un nanotube. Tout ce qui est clair ici, tous les pics d'intensité, eh bien, sont une représentation des atomes de carbone à la surface. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Vous voyez des rangées de points blancs qui correspondent aux rangées des atomes de carbone. Alors, des quantités d'images de nanotubes ont été obtenues avec cette technique et on voit déjà, à premier abord, que les rangées de points blancs ici ne sont pas toujours orientées de la même façon vis-à-vis de l'axe du tube qui est horizontal dans toutes ces photos. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement, l'enroulement des plans d'hexagones, eh bien, il varie d'un tube à l'autre, il n'est pas toujours le même. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, on a reconstitué à partir de la position des points blancs, vous voyez, on a bien reconstitué le réseau d'hexagones, et qui plus est, on voit que ce réseau d'hexagones, quand on regarde son orientation par rapport à l'axe du tube, on a une configuration que j'ai appelée chaise tout à l'heure. Mais c'est loin d'être le cas, et en fait, la conclusion de ces études, eh bien, c'est que les monotubes, ils ont une hélicité aléatoire, c'est-à-dire que le mode d'enroulement de plantes d'hexagones sur le tube, eh bien, il est complètement quelconque. Il est temps de passer à la synthèse, de vous expliquer comment on synthétise ces objets. Alors en fait, j'ai essayé de résumer sur ce transparent les différentes méthodes qui ont été développées depuis 9 ans. Et je les ai classées en deux voies de synthèse, une voie haute température et une voie basse température. Alors la voie haute température, son principe c'est le suivant. Vous vous débrouillez pour obtenir une vapeur de carbone et ensuite vous condensez cette vapeur de carbone dans un gaz neutre, comme l'argon ou l'hélium, dans un gradient de température. C'est tout bête. Première méthode, qui est la méthode historique qui a permis la découverte des nanotubes, consiste à utiliser un réacteur à arc électrique. Alors ça, c'est quoi ? Ça veut dire établir un arc électrique entre deux électrodes de graphite qui sont schématisées ici, le tout dans une atmosphère d'hélium. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, vous formez un plasma ici entre les deux électrodes. L'anode est consumée et il se forme un dépôt noir sur la cathode qui est plein de nanotubes. Alors, je vous ai dit, c'est la première méthode qui a été développée pour synthétiser les nanotubes. Elle a été développée par des Allemands, Kratzmer et Huffman. Et dès 1992, elle a été développée en France, je dirais à peu près simultanément, au CNRS de Montpellier sous l'impulsion de Patrick Bernier et à l'École Polytechnique sous l'impulsion de Hubert Pascard. Et voilà une vue du réacteur de Montpellier. Donc c'est un cylindre en inox ici. Alors, on ne voit rien. Voilà, on voit mieux. Voilà la chambre. Donc vous avez ici l'anode. L'anode de graphite prêt à être montée, qui est l'anode qui est consumée dans la manip. Alors voilà une vue du réacteur avant l'expérience, donc vous avez ici la cathode, et voilà après l'expérience. Alors, l'expérience, ça dure 2 ou 3 minutes. Hein. Vous avez le temps, en quelques minutes, de consommer une anode de graphite de 10 cm de long. Et alors voilà à quoi ressemble le champ de bataille, après qu'on a établi l'arc, eh bien vous voyez, en fait, vous avez une suie noire qui a envahi tout le réacteur. C'est vraiment, on a l'impression de mettre son nez dans sa cheminée. Donc, c'est une suie noire qui forme une espèce de toile d'araignée très caoutchouteuse, très filamentaire. Et cette suie noire contient 70% de nanotubes. Ça, c'est la première voie de synthèse. Deuxième voie de synthèse, plus sophistiqué. Pour vaporiser le carbone, on envoie un laser sur une cible en graphite. Le laser arrache des fragments de carbone ou des atomes de carbone, et ensuite, cette vapeur est condensée, comme dans la méthode de l'arc électrique, pour donner des nanotubes. Alors, cette méthode est plus onéreuse que l'arc électrique, ça, il s'en faut, mais elle a un nombre plus... On comprend mieux ce qui se passe. Il est plus facile de contrôler ce qui se passe avec une expérience laser qu'avec un arc électrique. Un arc électrique, c'est très brutal, ça fait des tas de choses, mais pour comprendre ce qui se passe, c'est difficile. Alors, la méthode laser a été développée beaucoup par Smollett aux États-Unis, et nous l'avons développée à l'ONERA. C'est la seule manip en France qui utilise la voie laser. Voilà une photo du réacteur en question. Donc la chambre est ici, elle est schématisée ici par le trait bleu. La cible en graphite est là. On envoie le laser ici sur la surface. La température de la surface est contrôlée par un pyromètre. Le carbone est vaporisé et entraîné dans le tube ici, où il se condense pour former les nanotubes qu'on recueille en haut. Alors cette manip permet en fait d'étudier de façon simple les conditions de synthèse in situ, et c'est ça qui est intéressant avec cette manip. Troisième voie de synthèse, réacteur solaire. Alors ça, c'est assez original. L'idée, c'est de dire finalement, j'ai besoin d'énergie pour vaporiser du carbone. Et tous les coups sont bons. Et en fait, eh bien, une source d'énergie, c'est le soleil. Et il suffit de focaliser des rayons solaires sur une cible en graphite, et vous arrivez à atteindre la température de sublimation du carbone à la surface. Vous avez un panache de carbone qui se condense comme les autres, dans les autres manips. Et effectivement, vous savez qu'en France, dans le Midi, on a du soleil et on a le centre d'Odeio équipé de grands miroirs et qui permettent de construire des fours quand on focalise les rayons à partir de ces miroirs. Et voilà un schéma d'expérience. Enfin, le schéma d'expérience ici est la photographie de la chambre d'expérience. Voilà le miroir qui focalise le rayon solaire à l'intérieur de la chambre d'expérience, dont vous avez le schéma ici. D'accord ? La cible est ici, donc la cible est chauffée là. Le gaz est vaporisé, est entraîné dans un filtre où on recueille les nanotubes, et vous avez ici une image de la cible chauffée par le soleil et le panache ici lumineux qui est le panache de vapeur de carbone. Alors, l'autre type de voie de synthèse, c'est une voie basse température. Là, on est beaucoup moins brutal. Et en fait, ces voies de synthèse sont héritées des expériences de production, des méthodes de production des fibres de carbone qui utilisent la décomposition catalytique d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est quoi ? C'est par exemple l'acétylène, le benzène, le méthane, ce type de composé. Et la manip consiste en quoi ? Eh bien, vous déposez sur un support des petites particules de catalyseurs. En général, c'est un métal de transition, nickel, cobalt ou des mélanges. Donc des toutes petites particules. Vous mettez tout ça dans un four autour de 700 et 1200 degrés et vous envoyez l'hydrocarbure sur ce lit de particules. L'hydrocarbure se décompose à la surface de la particule, libère le carbone qui ensuite cristallise sous forme de nanotubes. Alors, ce qu'il faut retenir de ces méthodes de synthèse, c'est que, hors la méthode basse température qui utilise toujours des nanotubes, sans catalyseur, on obtient des nanotubes multifeuillets. Avec catalyseur, on obtient des faisceaux de monotubes. On ne peut pas obtenir de faisceaux de monotubes sans catalyseur. Alors, je vais passer sur les modes de croissance. J'en parlerai à la fin si j'ai le temps. Et je vais passer à ce que vous attendez certainement, c'est-à-dire les propriétés des nanotubes. Alors, pour aborder cette partie sur les propriétés, eh bien, on va se souvenir à nouveau que le tube, c'est un plan de graphite roulé sur lui-même. Donc, quelque part, les propriétés du nanotube vont être proches des propriétés de ce plan de graphite. Donc, on va commencer par rappeler quelques propriétés de base du graphite. Comme je vous ai dit, le graphite, c'est un solide très anisotrope, quasi bidimensionnel. Donc l'essentiel des propriétés est dans le plan. Premier type de propriété, les propriétés de conduction électrique. Bon, alors le graphite, c'est pas un bon conducteur, hein, c'est un mauvais conducteur. Mais ces propriétés de conduction sont sensibles aux distorsions géométriques, aux défauts, aux impuretés chimiques. On sait qu'en dopant le graphite, on peut beaucoup améliorer les propriétés de conduction. Donc, mauvaise conduction, mais modulable. Deuxième type de propriété, les propriétés mécaniques. Alors, elles sont fortes dans le plan, ça c'est lié à la force de la liaison des atomes de carbone dans le plan. On le retrouve ici. Et le module d'élasticité, eh bien, il est très élevé, il est de 1000 gigapascal. Il est beaucoup plus faible, hors du plan, et là, il tombe à 4. C'est catastrophique, ce qui explique que ce n'est pas difficile de faire coulisser les plans les uns par rapport aux autres, et le graphite, c'est friable. Enfin, propriétés thermiques, elles sont excellentes, surtout dans le plan. Bien, alors, qu'en est-il des nanotubes? Alors, je vous rappelle, donc, on a une structure de graphite, et la spécificité par rapport au graphite, eh bien, c'est la dimensionnalité. On a quelque chose qui est essentiellement monodimensionnel. On a un aspect courbure, puisqu'on a en fait du graphite, mais courbé, fermé au bout. Et puis, évidemment, c'est du carbone, donc une simplicité biblique. Alors, propriété de conduction électrique. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que, je vous ai dit, on peut modifier les propriétés de conduction du graphite si on introduit une perturbation dans la structure. Eh bien, ici, la perturbation, c'est quoi? C'est la courbure que vous avez sur le tube. Et c'est quoi? C'est l'hélicité, c'est-à-dire la façon dont vous avez enroulé le plan d'hexagone sur le tube. Et de fait, le nanotube, eh bien, c'est un bon ou mauvais conducteur suivant l'angle d'enroulement du plan d'hexagone sur le tube. Quand je dis bon conducteur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un caractère conducteur du type d'un métal, c'est-à-dire un caractère métallique. Et en fait, tous les tubes chaises que je vous ai montrés tout à l'heure sont métalliques, c'est-à-dire sont des bons conducteurs du courant électrique, et un tiers des tubes est bon conducteur. Donc ceci est évidemment très intéressant. De plus, comme on a un objet très petit en dimension, eh bien, il y a des effets quantiques, dont je ne rentrerai pas dans les détails, liés à la dimensionnalité, qui intéressent énormément les chercheurs de recherche fondamentale, puisque pour une des premières fois, on peut étudier facilement, si je puis dire, des effets quantiques d'objets de dimension réduite. Deuxième type de propriété, les propriétés mécaniques. Eh bien, on retrouve le module d'élasticité qu'on avait dans le plan de graphite, c'est-à-dire de 1000 gigapascal, ce qui est énorme. C'est 100 fois plus que l'acier. Donc, on a quelque chose d'extrêmement résistant. Non seulement il est résistant, mais en plus, il est flexible. Vous avez vu des pelotes, déjà, ça faisait comme un paquet de nouilles. Eh bien, effectivement, vous prenez le tube, si je puis dire, vous pouvez le plier, il va plier, mais il ne va pas se casser. Vous le voyez, par exemple, ici, sur ces images. Vous voyez ici un tube qui a vraiment été beaucoup plié. Voilà un modèle de structure correspondant à ce pliage. Et c'est élastique, c'est-à-dire si vous revenez en arrière, vous récupérez un tube parfait. Vous pouvez le tordre sur son axe, le plier, le tordre. Et voilà un exemple ici de tube. Alors, je vais zoomer une fois de plus. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ici, le tube est tordu. Exactement comme vous avez sur le dessin ici. Donc, un objet flexible. Et enfin, troisième type de propriété, les propriétés chimiques. On peut, par capillarité, remplir les tubes avec tout un tas de choses. Alors, je vais vous montrer un ou deux exemples. On peut les remplir avec des cristaux. Alors, attendez... Alors voilà, des cristaux de. À gauche, vous avez un remplissage par des cristaux de plomb, qui est la partie que vous voyez ici en foncé. Vous avez le tube multifeuillet rempli par ce cristal de plomb. Si je passe ici au deuxième exemple, vous avez un tube qui a été obtenu à l'École Polytechnique. D'un tube multifeuillet rempli par un composé monocristallin de chrome. Donc dans cet exemple, on a en fait réussi à synthétiser un fil de chrome encapsulé dans les tubes de carbone. Alors, on sait aussi remplir les monotubes de carbone. Donc voilà, ceci a été obtenu très récemment. Donc vous avez ici deux exemples de remplissage. Ici, vous avez un remplissage d'un tube par des cristallites qui sont des chlorures de métaux, comme des chlorures de zirconium ou de thorium. Et puis, assez amusant, ça a été obtenu il y a 2 ans à l'université de Philadelphie aux États-Unis, un monotube qui est rempli par une chaîne de quoi ? De C60. Les petits ronds ici, c'est la molécule de C60. Elle fait 7 angstroms de diamètre. Le tube, il fait 13 angstroms. C'est ce qu'il faut pour enfiler le tube avec ces boules de C60. Ceci a été appelé pipod, petit pois. Effectivement, l'image est assez suggestive. Bien, alors, comment va-t-on utiliser toutes ces propriétés pour utiliser le nanotube ? Autrement dit, le nanotube, quel matériau peut-il bien représenter pour le futur ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, on peut chercher à exploiter les propriétés de conduction. Et en fait... Oh, excusez-moi. On va essayer d'exploiter les propriétés de conduction. Et en fait, on peut dire que le nanotube sert actuellement d'objet modèle de ce qui sera peut-être le fil conducteur des années 2010-2015. Alors en fait, vous savez qu'on cherche à miniaturiser de plus en plus les dispositifs électroniques pour les ordinateurs, les portables, enfin tout devient de plus en plus petit. Et ça suppose de miniaturiser de plus en plus les circuits électroniques. Et actuellement, on arrive à faire par exemple, dans ce qu'on utilise comme matériau, c'est le silicium, les semi-conducteurs, et on arrive à miniaturiser jusqu'à quelques dizaines de nanomètres. Mais il est clair qu'il va falloir aller plus loin que ça. Il va falloir descendre quasiment à l'échelle du nanomètre. Et pour ça, eh bien, il va falloir trouver d'autres matériaux. Et je ne dis pas que le carbone sera le matériau qui sera utilisé, mais c'est un matériau qu'on a déjà sous la main, qui a les bonnes dimensions. Et on va pouvoir commencer à travailler avec. On va pouvoir commencer à apprendre à manipuler des jonctions, des transistors, enfin tout dispositif électronique qui est à la dimension de ce qu'il faudra qu'on utilise dans 10 ou 15 ans. Et en plus, le nanotube, c'est du carbone, donc c'est chimiquement très simple. Donc vraiment, là, on tient un objet modèle idéal. Alors, je vous montre quelques images de dispositifs qu'on commence à réaliser avec les nanotubes. Déjà, on peut les manipuler avec la pointe d'un microscope de surface. Hein, vous vous rappelez les microscopes de surface ? Eh bien, avec la pointe, on peut bouger le nanotube, le déplacer sur la surface, le plier, en faire une boucle, etc. On peut le couper, on peut faire tout un tas de choses. On peut aussi faire un dispositif électronique. Par exemple, ici, vous avez un tube en bleu qui a été posé sur 2 électrodes de platine obtenues par lithographie. Et avec ce dispositif, on a mesuré la résistance électrique qui passe dans le tube et on a pu vérifier que certains tubes étaient conducteurs et d'autres tubes pas conducteurs. Deuxième type de propriété que l'on va utiliser, c'est les propriétés mécaniques. Et en fait, là, vous tenez en fait une fibre extrêmement fine et qui a des propriétés mécaniques vraiment très intéressantes. Si je compare la résistance à la traction du nanotube avec d'autres matériaux fibreux, comme la fibre de carbone, le Kevlar, l'acier inox, vous voyez que le nanotube, c'est le champion de toute catégorie. Donc l'idée, c'est d'essayer de le mélanger à un matériau pour renforcer ses caractéristiques mécaniques, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ONERA. On sait maintenant mélanger jusqu'à 20-30% de nanotubes dans un polymère. Vous voyez une photo ici. Et on renforce le module d'élasticité de ce polymère d'un facteur 2 à peu près, ce qui est tout à fait encourageant. Enfin, dernier type d'utilisation auquel on peut penser, eh bien, c'est le nanotube, c'est un tube, mais c'est aussi une extrémité. Et c'est une pointe. Et c'est une pointe extrêmement fine, puisque c'est une pointe de l'ordre du nanomètre. Il n'y a pas plus fin. Et donc, on peut essayer d'exploiter eh bien, les propriétés de cette pointe, en particulier l'émission sous champ, hein, où vous avez un effet d'émission de pointe sous champ électrique, et c'est la meilleure pointe qui existe. Et en fait, à tel point qu'on pense développer des écrans plats à base de nanotubes, et la société Samsung en Corée est en train de développer un prototype à l'heure actuelle. Enfin, je vous ai parlé de microscopie de surface. Microscopie de surface utilise une pointe. Eh bien, il est très tentant d'essayer de substituer à cette pointe, voilà ici une image d'une pointe traditionnelle, d'accord ? Et on a collé dessus un nanotube. Alors, l'intérêt de ça, c'est quoi ? Eh bien, en fait, les détails de l'image que vous obtenez sur l'image de surface, d'accord, est convolué par le rayon de courbure de la pointe. Donc, plus la pointe est fine, plus vous allez obtenir des détails fins sur l'image. Et là, eh bien, avec une pointe de nanotube, si vous comparez le rapport de taille entre le nanotube et la pointe classique, vous avez un facteur de taille évident, donc on attend une résolution décuplée sur les images de surface. Eh bien, j'en arrive à la conclusion pour dire que tous les développements dont je viens de parler, leur futur va dépendre de la capacité que nous aurons en tant que chercheurs à savoir répondre à un certain nombre de questions. Les questions sont les suivantes. Bon, j'en ai sélectionné quatre, il y en a évidemment bien d'autres. D'une part, d'être capable de synthétiser de façon contrôlée des configurations données de nanotubes. Vous vous rappelez le problème de l'hélicité, c'est-à-dire la façon dont le plan d'hexagone est enroulé sur le tube. Et je vous ai dit, ben, finalement, on observe tout ce qu'on veut. Or, vous vous souvenez que l'hélicité détermine directement la propriété de conduction du tube. Par exemple, on veut récupérer que des tubes conducteurs. Donc, il va falloir savoir trier. Il va falloir savoir trouver une méthode qui permet de synthétiser que des tubes conducteurs, par exemple. Vous avez vu aussi des photos où on voyait les tubes mélangés aux particules de catalyseur. Ces particules de catalyseur, on n'en a pas besoin. Il faut les éliminer. Donc, il va falloir savoir purifier les échantillons. Et ça, ce n'est pas facile. Il va savoir aussi falloir mettre en forme les échantillons, les nanotubes, en vue de leur utilisation. Et ça, c'est tout le travail que l'on effectue au travers du développement des dispositifs dont je vous ai un petit peu parlé. Donc, si je fais un petit bilan, le nanotube, c'est quoi ? C'est un cristal de carbone monodimensionnel qui a la taille d'une molécule dans une direction et qui a des propriétés modulables et d'un spectre extrêmement large qui peuvent trouver leur application aussi bien en physique, en chimie, que peut-être même en sciences du vivant, puisqu'on peut se servir du nanotube comme support de greffe pour faire pousser des cristaux de molécules comme des protéines, par exemple. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais effectivement, on peut aussi se servir du nanotube, un espèce de squelette, un espèce de greffon, pour synthétiser des choses autour. Voilà, donc si je peux résumer les choses en deux lignes, le nanotube, c'est à la fois un objet modèle idéal pour la recherche fondamentale et c'est un nanomatériau pour la recherche appliquée qui a certainement un grand avenir devant lui. Je vous remercie beaucoup.
Bonsoir Madame, au début de votre conférence vous nous avez dit que les divers plans de graphite étaient liés par des liaisons faibles.
Oui.
Est-ce que ce sont, on nous a parlé de liaisons de Van der Waals.
Oui, c'est ça.
Et entre les autres, dans l'autre plan,
oui.
Vous nous aviez dit que c'était des liaisons fortes.
Oui.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les liaisons covalentes ?
Oui, exactement.
D'accord.
J'ai pas voulu utiliser le terme pour rester simple, mais effectivement, c'est exactement ce qu'on appelle des liaisons covalentes, et même pour être encore plus précise, ce sont ce qu'on appelle des liaisons hybrides de type sp2.
D'accord.
Qui sont des liaisons où on combine les orbitales atomiques que l'on a dans l'atome de carbone.
Il n'y en a pas d'autres ?
Non. Non, 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 c'est vraiment un cristal pur de ce point de vue-là.
D'accord, merci.
J'ai une question de l'autre côté. Allez-y, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît.
Bonsoir, je vous remercie tout d'abord pour votre exposé. Et je voulais savoir, pour les nanotubes de carbone, est-ce qu'on doit parler de découverte ou d'invention? Est-ce que la première synthèse, on devinait qu'on allait avoir ça? Ou est-ce que c'était par hasard qu'on a observé ça?
C'est une question intéressante. Pour tout vous dire, le nanotube, c'est un sous-produit de la synthèse du fulrène au démarrage. Les gens soupçonnaient qu'il pouvait exister la molécule de C60 et ont en tout cas cherché à faisaient des études sur des petits agrégats de carbone. Et ils ont mis au point un dispositif de synthèse qui a conduit à la synthèse du C60. Ça, c'est l'aventure Croteau, Smalley et Curl, qui a conduit au prix Nobel en 1996. Et puis, la méthode de synthèse qui a été utilisée, c'est l'arc électrique. Et en fait, Ijima a eu la curiosité de s'intéresser à cette espèce de dépôt noir, cette espèce de suie filamenteuse qui se déposait sur la cathode. Et il est tombé sur les nanotubes. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le nanotube, en fait, je pense que les gens le fabriquent depuis longtemps. C'est toujours comme ça. En particulier, depuis 30 ans, on fait des fibres de carbone. Il est clair que dans les fonds de récipients de fibres de carbone, il y a des nanotubes. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est la dimension. Pour observer quelque chose, il faut avoir l'outil adapté. Et il y a 30 ans, on aurait eu du mal à avoir un nanotube. Donc, pour faire quelque chose, enfin les ingrédients pour une découverte, il faut qu'il y ait les idées dans la tête des gens, il faut les manips, mais il faut aussi les outils d'observation et de mesure.
Une question là, monsieur.
Au sujet du microscope électronique, vous aviez précisé que les limites du microscope électronique dues aux difficultés de manipuler, d'être maître, en somme, des rayonnements électroniques. Oui. Qu'est-ce qui empêche d'utiliser les rayons X? Vous avez dit qu'on ne pouvait pas utiliser les rayons X, alors que je me souviens qu'il y a de très belles images obtenues par les rayons, des très belles images de molécules obtenues grâce aux rayons X. Oui. Et ma deuxième question, quels sont les effets des électrons sur les coupes à examiner, étant donné
sur
les coupes?
Oui. Alors, je réponds d'abord à cette dernière question qui est plus facile. Effectivement, les électrons interagissent fortement avec la matière, en particulier avec les atomes. C'est des interactions type coulombienne, donc des interactions fortes. Il y a des tas de phénomènes d'excitation des électrons de l'atome qui absorbent une partie d'énergie des électrons du faisceau. Donc vous perdez de l'énergie. À chaque fois que vous avez une excitation d'un électron d'un atome, ça se traduit par une perte d'énergie au niveau des électrons du faisceau. Donc à la fin, quand vous avez suffisamment eu d'événements de ce type, l'électron il n'a plus d'énergie, il est complètement absorbé. Donc si on veut avoir une chance de récupérer des électrons à la sortie de l'échantillon, il faut que ces événements de perte d'énergie restent très minoritaires. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir un échantillon très mince. Et j'ai dit mince, c'est-à-dire effectivement de 2 à 100 ou 200 nanomètres, c'est-à-dire effectivement c'est pas beaucoup. Alors pour arriver à ça, on a des techniques. Bon, les nanotubes, ça ne se pose pas puisque les échantillons sont naturellement minces, mais quand on veut regarder par exemple la structure d'un alliage métallique, d'un métal, il faut arriver à faire des plaques qui soient aussi fines que ça. Et on a des techniques d'attaque électrochimique qui permettent d'arriver à des finesses pareilles. Alors, pour la première question, bon, je ne suis pas spécialiste de rayons X, mais les électrons, vous savez qu'on les dévie assez facilement dans un champ électrique et sous un champ magnétique. Dans l'entrefer d'une bobine, c'est assez facile de focaliser ou de diverger des faisceaux d'électrons. C'est beaucoup plus difficile avec les rayons X. On commence à faire de la microscopie de rayons X. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer beaucoup dans l'avenir.
Une question là-haut.
Oui, bonsoir, merci de votre conférence. Je voudrais savoir, dans les méthodes de fabrication, est-ce qu'on a réussi à isoler des facteurs qui influent sur la structure justement de ces nanotubes, donc l'angle d'hélicité?
Oui.
Et est-ce qu'on peut envisager au niveau fabrication des méthodes de croissance des nanotubes un peu analogues à ce qu'on utilise sur les alliages monocristaux? Merci.
Alors, ben là, vous touchez du doigt sensible une question cruciale. Si un jour on veut synthétiser effectivement des nanotubes d'une hélicité donnée, ou en quantité macroscopique actuellement, oui, ça, je ne vous ai pas dit. J'ai oublié. Avec la méthode de Montpellier, par exemple, hein, on arrive à fabriquer un gramme de nanotubes à peu près. Ça tient dans ce flacon. Hein. On ne voit pas grand-chose. Je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Non, on ne peut rien voir. Voilà, à peu près un gramme de nanotubes. Évidemment, c'est suffisant pour certaines études, mais pas suffisant pour d'autres, c'est clair. On ne sait pas ce qui détermine l'hélicité des tubes. On ne sait pas. On sait un petit peu ce qui différencie la croissance de tubes multifeuillets de tubes monofeuillets. Les tubes multifeuillets, on ne sait vraiment pas comment ils se forment. Les tubes monofeuillets, je vous ai dit, il faut utiliser un catalyseur métallique. Si vous n'utilisez pas de catalyseur métallique, vous me donnez un très très bon argument pour sortir des transparents que j'avais mis de côté. Typiquement, les catalyseurs métalliques qu'on utilise, hein, c'est des métaux de transition comme le nickel, le cobalt, mais aussi des terres rares comme l'yttrium, le lanthane, des mélanges des deux, ça marche encore mieux si on fait des mélanges. Et puis, si on essaye de regarder la relation qu'il y a entre ces particules et puis les nanotubes, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à montrer que le nanotube, eh bien, il émerge de particules métalliques qui ont une taille de l'ordre de 10-20 nanomètres. Et vous avez ici une image. Vous avez trois particules. Tout ce qui est là, c'est du carbone amorphe. Mais si vous regardez attentivement ce qui se passe ici, vous avez un petit faisceau de tubes qui sort de cette particule. Donc l'idée, c'est de dire que les nanotubes poussent à partir de ces particules. Alors évidemment, on est loin d'avoir un mécanisme complet de ce mécanisme de formation, hein, de la formation. Mais les idées sur lesquelles, le modèle sur lequel on travaille actuellement, on a des études en ce moment à l'ONERA là-dessus, et sur lequel un nombre de plus en plus grand de gens s'accordent pour dire que ce modèle est raisonnable, c'est le modèle qui est schématisé là. En fait, ce qu'on appelle le modèle vapeur liquide solide, donc vous partez de la vapeur de carbone et de métal, mettons le nickel pour simplifier, et puis cette vapeur va se condenser. Elle va se condenser pour former des gouttes liquides. Après l'état vapeur, vous avez l'état liquide. Et dans la phase liquide, à suffisamment haute température, le carbone et le métal sont solubles. D'accord ? Mais quand vous continuez à refroidir, arrive un moment où le carbone n'est plus soluble dans le métal. Et il va ségréger du métal en diffusant à la surface de la particule. Et à la surface de la particule, il va cristalliser. Il va cristalliser sous forme de carbone solide, donc. Et si la vitesse de refroidissement est rapide, la vitesse de ségrégation est rapide, et le carbone va former des petites bulles ici à la surface. Ces bulles, on les voit sur cette image de haute résolution. Ici, on voit les petites bulles de carbone à la surface. En fait, ça, c'est vraiment un bébé tube que vous voyez ici. Et en fait, ça continue à pousser et à donner le faisceau que vous voyez là. Donc voilà très schématiquement dit les idées sur lesquelles on travaille actuellement sur la croissance. Mais on n'a pas l'embryon d'une explication sur ce qui peut bien piloter l'hélicité.
Une question là, madame.
Que pensez-vous du stockage de l'hydrogène dans les nanotubes de carbone pour l'alimentation des piles à combustible ?
Alors, vous avez vu que je n'ai pas du tout parlé de ça, parce que c'est une question tellement controversée par la communauté que j'ai préféré ne pas embrouiller dans l'exposé principal mon propos avec cette question. Effectivement, il a été fait des expériences qui semblent montrer que l'on pourrait stocker de l'hydrogène soit à la surface du tube, soit à l'intérieur du tube. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces expériences sont très difficiles, parce qu'il faut travailler avec des tubes débarrassés de toutes les impuretés. Il ne faut pas que les impuretés aient des propriétés d'absorption de l'hydrogène plus importantes que le nanotube lui-même. Donc il faut travailler avec un matériel très pur et dans des conditions très soignées. Et ça, il semble que ce soit effectivement très difficile à réaliser. Alors, il y a eu des expériences assez propres qui ont dit qu'on peut stocker entre 4 et 8% d'hydrogène, ce qui est suffisant pour mobiliser l'industrie de l'automobile. L'automobile bouge à partir de 5%, je crois. Mais ces chiffres ne sont pas confirmés. On s'aperçoit qu'on ne travaille actuellement pas dans des conditions assez propres. Et je pense qu'il faut attendre pour dire quelque chose de sensé.
Une dernière question, madame.
Je vous remercie pour la limpidité de votre conférence. Dans la plupart des photos que vous nous avez montrées, les nanotubes ont l'air enchevêtrés, enfin, comme des cheveux emmêlés. Et est-ce qu'on a des techniques pour les démêler ou bien est-ce qu'on cherche à les fabriquer dès le début de façon ordonnée?
Oui. Oui, c'est effectivement. Il y a effectivement les deux possibilités que vous avez mentionnées. On peut essayer de les démêler. Alors, par exemple, il y a un groupe qui a eu l'idée d'appliquer un très fort champ magnétique pour aligner les tubes. Ça marche à peu près, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir des gros rubans où les tubes sont à peu près orientés avec un angle de désorientation qui est de l'ordre de 10 degrés, ce qui n'est pas si mal. Mais bon, il faut avoir un gros champ magnétique et ça, bon, c'est quand même un petit peu, on sent que c'est un peu fastidieux, un peu besogneux. L'autre façon, c'est d'essayer de les obtenir d'entrée de jeu, alignés, un peu comme un champ de blé. Et la méthode catalytique, eh bien, elle est idéale pour ça. Imaginez, vous prenez votre support et puis vous êtes capable de positionner vos petites particules de catalyseur, comme ci, comme ça, bien alignées. Eh bien, les nanotubes vont pousser à partir de ces particules et ils vont pousser tout droit. Donc, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à un champ de blé. Effectivement, vous aurez des tubes alignés.
Yannick Loiseau, je vous remercie.